Éthique par le père Philippe Arimont, le 18 avril 91.
De l'aspect politique. Nous avions vu pour Platon, avec la République, que c'est l'individu. La famille ne joue pas. La communauté est tout de suite une communauté politique, qui elle-même, du reste, n'existe qu'en fonction de la contemplation du bien dans cette participation de la justice. Chez Aristote, la justice jouera un rôle très important, puisqu'elle est un peu la pièce médiatrice entre l'éthique personnelle et l'éthique politique. On la retrouve des deux côtés. Et Aristote se pose à un moment donné la question de savoir si la vertu politique est la même que la vertu personnelle. Et au fond, c'est à l'égard de la justice qu'on peut dire que c'est la même. Il dit que c'est la même si l'État est parfait. Mais quand on a un État qui n'est pas parfait, autre chose est la vertu politique, autre chose la vertu personnelle. Et on comprend très bien cela. Donc, ce n'est que dans la mesure où l'aspect politique est parfait qu'il peut y avoir cette sorte d'identification. Un très gros problème, ça, René. Et on comprend très bien que Aristote soit posé la question, puisque si on veut savoir quel est le rapport exact entre l'éthique et la politique, pour Platon, c'est simple, la politique est première, et l'éthique individuelle est seconde. Tandis que, pour Aristote, l'éthique personnelle demeure proprement ce qui spécifie l'éthique, ce qui donne à l'éthique son caractère. Et de là, on se demande que devient l'éthique politique. Le problème est très très différent. Et je crois que c'est un problème intéressant, très difficile du reste à préciser, parce que les textes ne sont pas tellement précis. Alors, qu'est-ce que c'est que la famille pour Aristote? Même intéressant. Aristote, comparativement à Platon, reconnaît qu'entre l'homme et la femme, il peut y avoir une véritable amitié. Platon ne l'a jamais reconnu. Et donc, par le fait même, la famille ne pouvait qu'être qu'un aspect économique, très secondaire. Et Platon plaide, vous savez bien, la communauté des hommes et des femmes. Point de vue politique, avec une vision très naïve que s'il y a une communauté des hommes et des femmes, tout homme pourra considérer que les enfants d'un certain âge sont ses enfants, et donc il les aimera parfaitement. Je crois que c'est plutôt l'inverse, il n'aimera plus personne. Mais bon, Platon, c'est ça, considérant que tout ça, ça peut être mon enfant. Si ça peut être mon enfant, je dois l'aimer comme. Aristote considère au contraire qu'il y a une véritable amitié possible entre l'homme et la femme. Et dans son testament, on voit très bien qu'il a beaucoup aimé son épouse. On n'a pas l'impression que Platon. Platon, ce qui était beaucoup plus important, c'était ses disciples. Beaucoup plus important que sa famille. Donc une communauté spirituelle, comme un peu. C'est comme ça que tu restes Platon, si tu Socrate. Considère que juste avant de prendre la ciguë, il renvoie promener la famille, et puis ce sont les disciples qui sont là et qui passent avant. Et ça, est-ce que c'est vraiment Socrate, ou est-ce que c'est une projection de Platon sur Socrate? On pourrait discuter indéfiniment, mais je crois que c'est les deux. Aristote, la famille va impliquer, premièrement, une relation économique. Parce que le point de vue économique est fondé sur la famille. Qui donne à la vision sur la famille d'Aristote une perspective très spéciale. La relation du maître et de l'esclave. C'est la première relation de la famille. Et il y a tout ce passage extrêmement intéressant, je vais pas le voir, parce que ça fait plus partie de l'économie que de la famille, mais qui est quand même très intéressant et qui historiquement a été traité de multiples manières. La relation du maître et de l'esclave. Et c'est un thème qui serait intéressant à étudier à travers toute l'histoire politique. Ce que vous retrouvez chez Hegel et chez Marx comme quelque chose de très très important. Pour Aristote, la relation du maître et de l'esclave est une relation de bien commun. Le maître et l'esclave doivent coopérer d'une façon telle qu'ils sont la même finalité. Autrement, il n'y a pas de vraie coopération. Ils ont la même finalité. Donc, le bien de l'un et de l'autre, c'est le bien de l'esclave d'être soumis à son maître. Et c'est le bien du maître de coopérer avec l'esclave. Alors, comprenons tout de suite, c'est que pour Aristote, il y a deux espèces d'esclaves. Il y a les esclaves, au point de vue physicos, donc au niveau naturel. Et il y a les esclaves de violence. Aristote condamne tout esclavage fait par la guerre. Parce que c'est par la violence. On ne peut pas acquérir des droits sur un homme par la violence. L'homme a sa dignité propre, il ne le dit pas, il ne dit pas dignité propre, mais sans doute son indépendance, son autarcie, parce qu'il est capable d'atteindre sa fin. Tout repose là-dessus. Aristote ne parle pas de la personne, il parle de l'homme. Mais la réalité est quand même présente, je crois. Je crois qu'on peut le dire, que la réalité est présente de la personne humaine. L'homme n'a son indépendance que par sa finalité, que par le point de vue du bonheur. Et donc, je ne peux pas rendre un homme esclave par la violence en lui supprimant cette possibilité d'atteindre sa fin. Par contre, si je suis en face d'un homme et d'une femme incapable d'atteindre sa propre finalité, son bonheur, l'amour d'amitié ou la contemplation, puisque la vraie finalité de l'homme, c'est la contemplation. Et la seconde finalité de l'homme, pour Aristote, c'est la philia, l'amour d'amitié. Si je suis en présence d'un homme incapable d'atteindre sa finalité propre, c'est son bien d'être dans un état de dépendance à l'égard d'un autre homme, capable de l'aider à trouver sa finalité. Mais tout repose sur la question de la finalité. C'est ça que je dis, vous voyez, sans avoir dit. toujours tout orienté vers la finalité. Parce que c'est le propre de la prudence. Cette petite sagesse pratique. Tandis que quand je suis en présence d'hommes incapables de découvrir leur propre finalité, leur avantage humain est de se mettre en dépendance, donc d'être esclave. Sa finalité. Mais conception particulière, je sais bien, mais vu l'époque, c'est quand même très intéressant. Vu le monde dans lequel Aristote évoluait, Aristote considère que un homme esclave au point de départ, qui progressivement découvre, est capable d'acquérir la prudence et découvrir sa finalité. Très explicite. Ça, c'est sûr. Mais irréductible. Donc, pas du tout de chose univoque. L'épouse, c'est l'épouse. Ça ne peut pas être l'esclave. Donc, il distingue très bien la relation de l'époux et l'épouse et la relation du maître et de l'esclave. Il montre que l'épouse ne peut pas être l'esclave. Et puis la relation des parents, donc la coopération de l'époux et l'épouse par rapport aux enfants. Et c'est là où l'éducation, vous savez bien que l'éducation chez les Grecs joue un rôle extrêmement important, un païdéon, pour le point de vue politique. Et on le retrouve dans la famille, comme la première éducation. Alors, Aristote fait le parallélisme avec les trois formes de gouvernement. Le maître et l'esclave, on voit le point de vue comme relation. C'est la royauté. L'époux et l'épouse, l'aristocratie. Par la démocratie. Oui. Autrement dit, les finalités différentes entre les deux. Il y a des formes de gouvernance. Ce qui est intéressant, oui, c'est les analogies qu'il établit. Hein. Si vous prenez uniquement, c'est idiot. Mais c'est les analogies qu'il prend pour montrer les finalités différentes. Et montrer que c'est vraiment trois types de relations différentes. Avec trois finalités différentes. La finalité du maître et de l'esclave, c'est le bien commun de la famille. Économiquement, pour pouvoir vivre. Primo vivere. Et entre le maître et l'esclave, c'est la même finalité. L'esclave fait partie de la famille économiquement. Il est le bien de la famille. Partie de la famille économique. Entre l'époux et l'épouse, c'est l'amour d'amitié, la filia. Entre les parents et les enfants, alors, c'est le point de vue de l'éducation. C'est pour les enfants. Les parents existent pour les enfants, pour leur permettre de s'éduquer. Vous voyez que la famille, à cause de ce point de vue économique, a un fondement extrêmement fort. Ça, je crois qu'il est important à voir. Toute la famille va pouvoir s'étendre. Il y aura toute une tribu. C'est pas seulement la famille, venez, c'est une exploitation familiale. Et on conçoit très bien cette exploitation familiale. Ça se voit très bien. Je dirais presque l'unité va provenir de ce bien vivre, de ce pouvoir vivre. C'est le fondement. Alors la condition sine qua non. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas la famille. Ça prend une importance très très grande. Dans la vision d'Aristote. Donc, la base familiale est économique. Il y a toujours un petit reste comme ça qui reste. On voit très bien les jeunes qui veulent se marier sans penser du tout à la base économique. Et les parents disent, mais qu'est-ce que vous allez faire quand même? Vous n'avez pas terminé vos études. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? La base familiale pour qu'une famille puisse un foyer puisse se fonder, la base économique joue un rôle très important, tout à fait différent du temps d'Aristote que pour nous, dans la vision d'Aristote que dans la vision qu'on a, c'est ce que nous allons essayer de comprendre, mais ça joue un rôle très important et ça c'est très propre à Aristote puisqu'au fond, encore une fois, la communauté familiale c'est ce qu'il voit. Il se pose question de savoir si les vertus familiales sont les mêmes que les vertus éthiques. Alors il s'impose pour la question éthique, pour la question civique. Oui. Et pourtant, puisque ça forme une petite communauté, il y a une question de prudence. La prudence familiale. Pater familias. Mais c'est quoi le pater familias, ça c'est latin. Si nous regardons pour nous, parce qu'il faudrait regarder l'évolution, je ne vais pas le faire. Si nous regardons pour nous, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la famille n'implique plus du tout ce point de vue-là. La famille se réduit à ces deux, avec évidemment économique à l'égard du pays, à l'égard de l'État. Mais il n'y a plus ce fondement économique qui alourdit la famille. Autrement dit, entre Aristote et notre temps, la famille s'est spiritualisée, si j'ose dire. Parce que la base économique n'est plus primordiale. Ce n'est plus la relation du maître et de l'esclave qui est première. C'est la relation de l'époux et de l'épouse dans l'amour d'amitié qui est première. Et l'autre dépend de celle-là. C'est là la première finalité. Est-ce que pour Aristote, on pourrait dire que c'est la première finalité? Je crois que c'est virtuel. Mais ce n'est pas explicité. Tandis que pour nous, ce sera entièrement explicité. Et la question des enfants et leur éducation vient en second, celui-là. Et la question économique enveloppe la famille, mais est liée à une communauté différente, la communauté économique, la communauté du travail, qui est autre chose, et qui n'est pas encore l'État, mais qui tend à être de plus en plus l'État. Si vous regardez la famille, maintenant, dans le marxisme, parce qu'il y a une conception de la famille marxiste, vous verriez que, de fait, la dépendance à l'égard de l'État est encore beaucoup plus grande. Ça, c'est ce qui serait intéressant, c'est de voir les différents types de philosophie familiale aujourd'hui. Ce type-là n'existe plus en Europe, en Afrique, de moins en moins. C'est sûr, je crois, de moins en moins. En Asie, je crois aussi, on ne peut plus dire que c'est ce type-là qui existe. Il a existé. Mais c'est quand même beaucoup de savoir qu'il a existé. Parce que c'est quand même quelque chose qui est très particulier. De plus en plus, alors, pour l'Europe, c'est quand même assez net. Le type de la famille est avant tout le point de vue de l'amitié, de l'époux et de l'épouse. Et puis l'éducation en second. Les enfants et l'éducation en second. Et l'aspect économique dépendra d'État et de façon variable, suivant qu'on a affaire à un État qui est totalitaire ou un État libéral. Dans un État libéral, on trouvera un intermédiaire économique entre la famille et l'État. Et cet intermédiaire peut-être plus ou moins familial. Encore, petit trust familial, qui joue encore un rôle important et qui peut garder une certaine autonomie par rapport à l'État. Mais c'est de moins en moins. De plus en plus, on voit que l'État emporte au point de vue économique. C'est du reste, je crois, une question fatale quand je dis se libère, ça ne veut pas dire qu'elle est indépendante. Il faut bien qu'elle vive. Mais ce n'est plus quelque chose qui caractérise la communauté familiale. L'individu non marié ou la famille, tous les deux dépendent de cette politique économique de l'État, mais non pas des droits particuliers. Même quelquefois, puisqu'aujourd'hui ça joue, on a presque avantage d'être célibataire et de rester célibataire tout en vivant ensemble. Vous savez bien, ça fait partie de ces problèmes très très particuliers d'aujourd'hui. Ce qui est juste l'inverse du point de départ. Puisque c'est au contraire favoriser le point de vue de l'individu le plus possible. Favoriser de façon absolue. Alors, on va essayer de comprendre quelle a été l'influence du point de vue chrétien dans cette évolution de la famille. Pour nous, on voit qu'il y a un sacrement de mariage. Et sacrement de mariage a sûrement joué un rôle très important sur la conception même de la famille, à tel point que pour certains, il n'y a plus de pensée politique sur la famille, il n'y a plus qu'une théologie de la famille. C'est ce que je crains beaucoup. Il y a un fidéisme familial, ce qui fait que lorsque la foi disparaît, il n'y a plus rien. Autrement dit, on ne voit plus le fondement naturel de la famille. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus de philosophie de la famille. Et ça explique actuellement cette tentation prodigieuse de l'union libre et même plus de se marier en face du maire. Je crois que ça provient qu'on s'est trop reposé dans une attitude fidéiste sur le point de vue du sacrement de mariage. D'où une réaction violente. On rejette le sacrement. Et en rejetant le sacrement, il n'y a plus rien. C'est pour ça que le renouveau de la famille d'aujourd'hui, qui existe, qui est important, qu'elle de Saint-Père insiste énormément, implique pour nous un effort de réflexion philosophique sur la famille. Ça me semble extrêmement important. Parce que lorsque vous êtes en face de ceux qui ne croient plus, c'est pas le sacrement de mariage qui va leur redonner la possibilité de reprendre conception du mariage. C'est de leur montrer que naturellement la famille demande d'exister et de pouvoir les convaincre de cela. Je crois ça très important pour ceux qui ne croient plus et qui restent attachés d'une certaine manière à certaines traditions humaines, certaines traditions chrétiennes. C'est là où il y a une urgence pour nous de faire une philosophie de la famille. Ça me semble très très important à cause de ça. Alors, regardons d'abord qu'apporte le sacrement de mariage par rapport à l'aspect philosophique. Puis ensuite, on essaiera de réhabiliter la philosophie du mariage, la philosophie de la famille. Réhabiliter ça, retrouver autant qu'on le peut, parce que je crois qu'on peut le faire. Le sacrement de mariage, nous connaissons les textes majeurs qu'on reprend tout le temps. Le sacrement de mariage montre que le sacrement de mariage unit les époux l'Église montre que le couple a une place tout à fait particulière dans l'Église par le sacrement de mariage, puisque on met en pleine lumière que l'union de l'époux et de l'épouse est semblable à celle du Christ et de l'Église. Ça va très loin, ça, quand on essaie de comprendre cette affirmation de saint Paul, l'épître aux Éphésiens. Ça va très loin, parce que ça intègre la famille dans l'Église. Pas du tout comme fondement, mais comme un lieu particulier qui manifeste, qui témoigne. Les épouses marient, ils ne vont pas regarder en premier lieu le des hommes. Non, c'est pas ce que dit l'épouse. Si elle veut ça, on dira qu'il y a d'autres vocations que celle-là. N'est-ce pas ? Non, on se marie parce que on se marie avec quelqu'un qu'on aime et qu'on a choisi. Je me souviens un garçon que je connaissais très bien qui voulait épouser quelqu'un qui n'avait pas beaucoup la foi. Il voulait l'épouser pour la convertir. Alors je dis, alors je ne bénirai pas votre mariage. Je dis, mon père quand même, c'est merveilleux de s'épouser pour le convertir son épouse. Je dis, mais c'est pas le but. J'ai pas voulu. Ils ont demandé à quelqu'un d'autre de venir. Un an après, ils sont venus me retrouver. Ils ont dit, vous aviez bien raison. Ils m'ont dit de se séparer. Il faut distinguer l'homme naturel de surnaturel. Et le mariage a un fondement naturel qu'on doit respecter. Il ne s'agit pas de faire du fou surnaturel. Ce serait, vous voyez, du fidéisme. Ça, vous oubliez ça. Bien, il y a une petite... Je souligne parce que je crois que c'est très important de voir comment, dans certaines perspectives, le sacrement fausse le réalisme du mariage et la vraie perspective du mariage, d'où la nécessité d'une philosophie. Pour ne pas tomber dans ce fidéisme pratique. Ou alors on confond ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Et quand on confond le naturel au surnaturel, le naturel revient au galop. Et au bout d'un certain temps, c'est surnaturel qui disparaît. Très très vite, c'est toujours un peu comme ça. Il y a une réaction violente du naturel par rapport à ce surnaturel qui n'est pas juste. Il y a là quelque chose de très important. Saisir comment, au point de vue du sacrement, le mariage, le foyer chrétien, est plus intimement lié à l'Église que la famille à l'État. Vous voyez ? Faisons attention à l'analogie qu'on pourrait faire. C'est une analogie. Il ne faut surtout pas la rendre univoque. Vous avez donc la famille et l'État, la cité. Vous avez le sacrement, la famille chrétienne et l'Église. c'est du côté de la réalité profonde de l'époux et de l'épouse, mais c'est caché. N'allez pas envoyer un faire-part à tout le monde le jour de votre profession en disant j'ai